Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h sur l'ensemble de nos 85 radios partenaires, auditeurs et auditrices. Bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. À la une de cette édition, le prix du carburant est en hausse dans certaines localités du nord du pays. Une situation qui impacte les activités des populations. Les autorités militaires demandent l'indulgence de celles-ci. Des travaux d'assainissement des routes et de curage des caniveaux ont débuté à Bamako depuis le 21 mai dernier. Objectif, faciliter l'écoulement des eaux de pluie pendant l'hivernage. À Koutchala, une vingtaine d'hommes de médias se familiarisent sur les techniques de production d'émissions sur la santé sexuelle et les violences basées sur le genre. Les participants sont venus de Sikasso, Bourouni, Koutchala et le district de Bamako. À la présentation, Juliette Koulibaly, Gagne Kanté assure la technique. La hausse du prix de carburant au nord et au centre du pays inquiète les habitants de ces localités. Le prix du litre de l'essence est passé de 800 à 1500 voire 2000 francs CFA par endroit. Cette cherté du combustible concerne majoritairement Direi, Bourem, Ansongo et Gao. Reportage signé Oumar Waïgalo et Fatih Yatara avec le concours de nos correspondants.
Dans la région de Gao, notamment à Bourem, Ansongo et la ville de Gao, beaucoup d'usagers ont pratiquement garé leur engin à cause de cette situation. C'est en tout cas le témoignage d'Abdoul Karim Samba, un responsable de la jeunesse de Gao.
Le revendeur et ceux qui ont des carburants, qui les stockent jusqu'à étouffer la population, ensuite faire sortir les carburants et les vendre cher pour les populations. 2000 francs, 3000 francs, mais il y a moins de mouvements.
À dire, dans la région de Tombouctou, les activités champêtres sont menacées à cause de la et la cherté du carburant. Les motopompes servant à arroser les champs ne sont plus fonctionnelles, regrette Soumaïla Bourisango, un opérateur économique de Direi.
Vraiment, nous sommes en train de souffrir par rapport à la hausse des prix du carburant. Vraiment, nous souhaitons que les autorités nous aident pour qu'on puisse cultiver pour le ravitaillement de nos fournisseurs. Sinon, on ne va pas cultiver cette année.
La direction de l'information et des relations publiques des armées a confirmé l'information. Selon le colonel Major Dembélé, directeur de la DIRPA, c'est une stratégie pour étouffer les groupes terroristes.
FAMA sont en train de fermer le robinet pour éviter aux groupes armés terroristes une très grande mobilité. Et c'est une stratégie militaire.
La DIRPA indique qu'en avril dernier, une quantité importante de carburant, dont une partie est destinée aux groupes armés, a été saisie par l'armée malienne.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte X de Studio Tamani. Autre actualité de ce journal, les épreuves écrites du DF ont été lancées au groupe scolaire de Kalabankoura Nord hier lundi par le chef du gouvernement Choguel Kokala Maïga. Cette école regorge 6 centres d'examen, 54 salles et près de 1600 candidats du DF. Les épreuves ont démarré à 8 heures. Moussa Malé Sissoko était sur place.
C'est la montée des couleurs nationales en Bamanankan qui a donné ton aux activités. L'événement s'est déroulé au centre 1 du groupe scolaire de Kalabankoura Nord. Le président du centre 1, Adama Bagayoko, explique des dispositions prises pour le bon déroulement de l'examen.
Dans la salle, même les surveillants, leurs téléphones ne sont pas avec eux. Nous, on garde les téléphones au secrétariat. Les élèves, avec le contrôle, on n'a détecté aucun téléphone. Mon centre comprend 9 salles avec 260 candidats, 141 filles et 18 surveillants.
La première épreuve, la rédaction, comportait 3 sujets au choix. Au sortir de la salle, certains candidats se disent confiants quant à l'issue de l'épreuve.
Le sujet était abordable.
J'ai pris le deuxième sujet. Les activités que tu comptes mener pendant les vacances, que tu racontes ça à un ami.
J'ai pu faire mon sujet.
C'est seulement le jour où on va voir le résultat que tu sauras ce que tu as fait sur ta feuille. Quoi.
Rappelons qu'ils sont près de 350 000 candidats répartis entre 2106 centres d'examen et plus de 27 000 surveillants.
Il est 8h passé de 4 minutes à la radio Kaoural de Mopti, aussi qu'à Kounari de Sévaré. La deuxième édition du Forum des jeunes deux fois à Mopti a pris fin samedi dernier, 1er juin 2024. La rencontre qui a duré deux jours a réuni plus de 200 jeunes de différentes confessions religieuses pour dialoguer sur la paix et la cohésion sociale. Le thème de cette année s'intitule « Ambeye Balmaoudeye ». Autrement dit, nous sommes tous frères et sœurs, le point avec Mamadou Komina depuis Mopti.
Comment la religion pourrait promouvoir un esprit de fraternité entre les communautés? C'était la volonté affichée par les jeunes chrétiens et musulmans venus des régions de Mopti et Bandiangara. Lors de ces échanges interreligieux, Abbé Michel Kassogué est un participant venu de Kourou. Pour lui, il est important d'expliquer que la religion n'est pas à l'origine des conflits au Mali.
Les hommes ont voulu prendre la couverture de la religion pour mettre la guerre, la terreur dans notre pays. Il est plus que urgent pour les religieux de se retrouver pour dire non, ce n'est pas nous les acteurs de cette guerre.
L'islam est une religion de paix, a indiqué Issaka Togola, participant et jeune prêcheur à Mopti.
Nous, les jeunes musulmans et chrétiens, nous nous sommes réunis pour se donner des conseils sur comment sauver notre pays. Le musulman n'a jamais aimé la guerre. L'islam essaie de mettre fin au conflit au lieu d'en rajouter.
Ce forum de deux jours a été initié par Sahel Peace Initiative. Il vise à consolider la paix et à lutter contre l'instrumentalisation de la religion. Mopti, Mamadou Komina pour Studio Tamani.
Je vous l'annonçais dans le sommaire que depuis quelques mois, la mairie du district de Bamako a entrepris des travaux d'assainissement des routes et de curage des caniveaux. En plus d'assainir la capitale, les responsables de la mairie indiquent que cette initiative vise à faciliter l'écoulement des eaux de pluie pendant l'hivernage. Des Bamakois s'en réjouissent. Plus de détails avec Fatoumata Togola.
À Bamako, en longueur de journée sur les grandes artères et dans les rues, on aperçoit des hommes et femmes en gilet à l'œuvre d'assainissement. Des personnes qui exercent des petits métiers dans ces lieux se réjouissent de cette activité.
C'est une bonne activité, surtout pour nous qui vendons de la nourriture au bord du goudron. Quand ils balaient, ça nous fait du bien.
Après la pluie, les poussières qui se soulèvent sur le goudron peuvent faire tomber les usagers.
Moi, je vois que c'est très très bon parce que le Mali était sale un moment. Si on voit des gens aussi en train de nettoyer le Mali, on commence à avoir la santé.
Segouba Traoré, directeur de la voirie, reconnaît l'ampleur de la situation d'insalubrité à Bamako. Selon lui, cette deuxième phase qui a débuté le 20e passé a pour l'objectif d'assainir la capitale.
On a commencé par une première phase de désensablement, notamment 5 grandes artères du district de Bamako. Nous avons commencé aussi avec les activités de balayage. Nous sommes en train d'aller de phase en phase. Nous avons lancé le 21 mai passé la deuxième phase de désensablement.
Monsieur Traoré rassure que ces travaux d'assainissement qui se poursuivront concernent toutes les communes de Bamako.
De Bamako, nous partons à Koutiala où une vingtaine d'hommes de médias venus des régions de Sikasso, Bougouni, Koutiala et le district de Bamako sont réunis depuis le 31 mai 2024 à Koutiala. Objectif, échanger sur les techniques de production d'une série d'émissions participatives sur la santé sexuelle et reproductive et les violences basées sur le genre. Selon les organisateurs, cette session permettra de renforcer les capacités des participants en matière de production d'émissions. La rencontre est organisée par l'ONG Radio Rurale Internationale. Elle va durer une semaine.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
La rubrique Zoom sur d'aujourd'hui s'intéresse aux candidats du DIF, les nouveaux candidats qui stressent et les anciens qui sont sereins. Et c'est avec Aïssata Diarra.
Le jour des examens dans les centres, il est très facile de faire la différence entre les anciens et les candidats qui sont à leur première fois. D'abord, il y a ceux qu'on appelle les bleus comme Lala. À la veille de l'examen, elle n'arrive plus à trouver le sommeil. Le jour J, elle se réveille très tôt pour arriver des heures avant le début des examens. Toujours avec son cahier en train de réviser la matière dans laquelle elle doit composer. Pas d'amusement, constamment concentrée. Au moment de l'ouverture des sujets, elle commence à faire des bénédictions. Seigneur, aide-moi, couille. Et même à la sortie partie de la salle, elle demande à ses camarades. Bintou, comment tu as fait cette partie? Je crois que c'est comme ça, hein? Tout cela pour avoir l'esprit tranquille. Ensuite, il y a les habitués. En Bamananka, on les appelle Gonkorou, les déjà vaccinés. Peu importe le résultat. Seydou est à sa 4e tentative. Il ne panique pas. Il vient s'asseoir à quelques minutes du début des examens et sort après 1 heure de temps. À sa sortie, il ne se prend pas la tête. Il rejoint ses amis dans un coin en attendant l'épreuve suivante. C'est normal de ressentir la peur pendant les examens. Toutefois, il est bon d'éviter la panique et le stress pour ne pas faire certaines erreurs. Ainsi, bonne chance à tous les candidats ODF.
Merci Aïssata Diarra et c'est ce Zoom sur qui met fin à ce journal présenté par Juliette Koulibaly. Gagne Kanté était à la technique. Pour réécouter ce journal, appelez gratuitement sur Viamo au 37 321. Toutes nos productions sont également disponibles sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Ne décrochez surtout pas, juste après le magazine vous aurez la version en Bamanankan avec Aïssata Diarra. Retour volontaire des migrants au Mali, un processus long pour certains. C'est le sujet de notre magazine du jour, un numéro réalisé par Aïssatou Kanté. Il rentre dans le cadre des coproductions des médias de la Fondation Hirondelle, Studio Tamani au Mali, Studio Kalangou au Niger et Studio Yafa au Burkina Faso.
Migrants qui sont rentrés en 2023, de nombreux sont des ressortissants de la région de Kaï. Tchekoro Samson Kone, chef du sous-bureau de l'OIM à Kaï, au Mali, explique le processus.
Nous avons des FMP, des focal points au niveau de la frontière Bouki qui fait frontière avec la Mauritanie, qui nous informe que ces migrants ont été expulsés et qu'ils désirent rentrer dans leur pays volontairement. Donc nous sommes contactés. Nous organisons les mouvements de la frontière à Kaï, qui soit Burkinabé, Nigérien, Tchadien, Guinéen, Nigérien et autres. Donc une fois que ceci arrive, on fait un profilage.
Cela peut prendre combien de temps?
Cela dépend aussi des différents consulats ou ambassades. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, la Côte d'Ivoire exige souvent la présence physique du migrant pour attester que c'est un Ivoirien. Par contre, d'autres sont beaucoup plus flexibles dans leur démarche.
Cette attente peut être longue pour des migrants. C'est le cas de certains Guinéens, Burkinabés et Ivoiriens qui séjournent à la maison des migrants de Kaï en attendant de pouvoir rentrer dans leur pays respectif. Parmi eux, un couple avec leur petit garçon de moins de 2 ans. Nos tentatives pour les faire réagir sont restées vaines, faute d'autorisation accordée par l'EIM. À Kaï toujours, il y a aussi le Centre d'information et d'orientation des travailleurs migrants, SIOM, de la région. Ses responsables soulignent qu'ils sont un trait d'union entre les migrants et l'EIM. Alassane Yattara, animateur au SIOM.
L'aide que nous apportons, c'est une aide d'orientation. Dès qu'on les reçoit, on les enregistre. Et maintenant, à partir de l'enregistrement, maintenant, nous savons ce qu'ils veulent. Et maintenant, nous avons des services techniques maintenant, vers qui il faut les orienter. Et le principal acteur même de l'orientation, c'est l'OIM. Mais aussi avec les autres services techniques, comme l'INPS, comme aussi la DRT, la Direction Régionale du Travail.
Une fois de retour dans leur pays respectif, l'OIM soutient aussi des migrants pour faciliter leur réintégration, explique Tchekoro Samson Kone.
Tous les migrants qui sont, par exemple, des CAI sont déjà identifiés et sont orientés vers les bureaux des CAI. Faisons ce qu'on appelle le counseling. Quelqu'un vient avec un projet, je veux faire pratiquer l'agriculture, c'est ce que je connaissais avant de passer à la migration. Je teste de l'élevage ou bien je teste sur le commerce. Donc, en fonction des projets proposés par les migrants, donc nous organisons la formation d'abord. Nous faisons la formation avec les services techniques, la Direction régionale de l'agriculture pour tout ce qui est activité liée à l'agriculture et au maraîchage.
Gaoussou Koulibaly est un ancien migrant malien. Après son retour de l'Algérie, il a été soutenu par l'OIM et gère aujourd'hui son entreprise.
Avant de prendre le chemin de la migration, j'étais maintenancier en informatique. Quand je suis revenu, je leur ai dit que je me connaissais en réseau également. L'OIM a financé une formation pour moi en réseau EG45 avec l'ONG Autre Monde. Mon patron a beaucoup apprécié ma manière de travailler. Après la formation, il a voulu qu'on continue à travailler ensemble. Il m'a même aidé à mettre en place ma propre entreprise.
Selon l'Association des Maliens expulsés, cet accompagnement de l'OIM n'est pas à hauteur de souhait pour certains migrants. Ses responsables soulignent qu'après cette formation, certains reviennent vers eux pour bénéficier d'une autre aide.